Laurent Guay, bonjour.
Bonjour.
Vous serez de passage très prochainement dans notre diocèse pour témoigner auprès des jeunes de votre parcours de vie et de faire de la prévention vis-à-vis des addictions notamment. Pour rappeler un petit peu aux auditeurs votre parcours, je crois que la première partie de votre vie ressemble un peu à une spirale infernale quelque part où se mélange addiction, délinquance, maladie. Et au bout de cette spirale, à un moment donné, tout bascule vers la lumière, on peut dire. Où étiez-vous à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors effectivement, pour faire vite, j'ai résumé toute mon histoire dans un livre qui s'appelle « Arraché à l'enfer ». Et donc après essais d'arrêter la drogue, j'étais à la drogue dure, une vie un peu compliquée. C'est en prison, alors que j'étais pas du tout croyant, où on m'annonçait une maladie qui est le sida, à l'époque aucun traitement. C'est là en prison que j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Et donc je me suis fabriqué une lame de rasoir, enfin quelque chose de tranchant. Et en plein milieu de la nuit, puisqu'il y avait les détenus, j'ai crié vers Dieu simplement s'il pouvait me faire une place dans son paradis. Et là j'ai fait une expérience qui a transformé ma vie, qui a impacté mon cœur. J'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ, avec Jésus. Donc une grande paix intérieure. Alors j'ai vu quelque chose qui se passe pas à l'extérieur, hein. J'ai vu quelque chose dans mon cœur, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un visage, et ce visage, pour moi, c'était le visage du Christ. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire, j'ai lâché la lame, la première chose, et j'ai cru que je pouvais m'adresser au divin, qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. En tous les cas, j'ai commencé à prendre conscience que quelqu'un pouvait m'aider dans ce bas monde, et c'était Dieu. À partir du moment où on peut croire, on peut avoir confiance, et a commencé là un processus où j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, et puis je me suis battu surtout, et j'ai commencé à essayer de me projeter. Alors ça s'est pas fait comme un coup de baguette magique, mais à partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après, si je puis dire. Voilà, je sais pas si je suis clair pour les auditeurs, mais voilà un petit peu rapidement le moment où il s'est passé une lumière dans mon cœur qui a éclairé, qui a éclairé mon avenir, en tous les cas, ce que je pouvais faire de mon avenir.
Donc ce moment de lumière, vous le trouvez dans un moment de désespoir profond en prison. Vous parlez d'un basculement. Et ensuite, sur quoi vous vous êtes appuyé pour vous reconstruire, justement, ou vous construire, tout simplement?
Encore une fois, ça a été très long, mais mon cœur était prêt. Donc je suis sorti de prison. Malheureusement, malgré la foi qui était dans mon cœur, encore des complications, ça a duré quand même 3-4 ans. Et c'est la maladie, c'est au travers de la maladie. Et là, un homme à l'hôpital, alors qu'on m'annonçait qu'il me restait très peu de temps à vivre, on ne savait pas très bien à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Un homme m'a regardé, hein, ça paraît bizarre. Quelqu'un m'a encouragé, quelqu'un m'a donné envie d'aimer la vie, quoi, d'une certaine manière. Cet homme-là était bénévole dans un hôpital à Paris. Il était chrétien, catholique. On a parlé de la foi. Et cet homme-là m'a conduit dans une communauté religieuse, les Béatitudes, à Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Et ils accueillaient des malades fin de vie, cancer phase terminale, sida phase terminale. Et c'est dans cette communauté, grâce à des hommes et des femmes consacrés à Dieu, remplis de bonté pour moi, remplis d'amour, de paix, de joie, c'est à ce moment-là que j'ai décidé dans mon cœur de suivre le Christ. Et à partir du moment où j'ai commencé à décider de suivre le Christ, on va dire que les choses se sont mises en place. Dieu m'a visité dans tout mon être profondément, a guéri mon corps par rapport à la drogue. Les médecins ont trouvé des traitements et j'ai commencé à me projeter dans ce que j'appellerais cette espérance sur ma propre vie, quoi. Voilà en gros comment ça s'est passé un petit peu, avec beaucoup de temps, je le dis aux auditeurs, il faut toujours du temps, une conversion, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail, c'est une discipline de vie qui aujourd'hui m'apporte une certitude, c'est que Dieu est bien vivant, c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants, et il est là pour chacun d'entre nous, et il peut nous aider à construire notre vie, et encore une fois, à rentrer dans ce que j'appelle cette espérance, qui est pour moi... le berceau du cœur de Dieu, quoi.
après cette rencontre avec le Christ et ce long travail qui vous a permis de vous débarrasser de l'addiction et même de la maladie, vous êtes parti en mission pour témoigner auprès des jeunes de votre expérience. Et c'est de cette mission dont vous parlez dans votre dernier ouvrage, Troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission, paru aux éditions des Béatitudes. Qu'est-ce que vous cherchiez à transmettre dans cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire?
Alors, voilà, bon, on fait vite, hein, mais c'est vrai qu'entre-temps, je me suis marié, j'ai eu deux enfants, donc c'est quand même extraordinaire. Depuis l'ouvrage Arraché à l'enfer, je passe mon temps à témoigner dans les écoles, et c'est vrai que ça fait 15 ans maintenant, il y a une crédibilité par rapport à ce que je vois. Et ce livre, Troubadour d'espérance, c'est vraiment un regard, une photographie, une vision sur une jeunesse dont, quelque part, je me fais le haut-parleur d'un cri de souffrance et en même temps où je montre voilà, des jeunes qui rentrent pleinement dans leur destinée. En fait, pour moi, c'est de pouvoir transmettre cette espérance malgré les situations difficiles, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des situations difficiles par rapport à des addictions, par rapport à un mal-être, par rapport à un ressenti de manque d'amour, par rapport à une difficulté de s'engager, de donner un sens en fait à leur vie. Alors moi, quelque part, voilà, cette connaissance, enfin en tous les cas, l'expérience d'où je viens et puis l'expérience de ces rencontres avec les jeunes, voilà, pour moi, ça me paraissait tellement évident de pouvoir écrire un autre livre qui peut les permettre de pouvoir rentrer dans leur destinée. Pour moi, c'est ça le plus important. Et en même temps, je parle de la culture de mort, des dépendances. Et puis, je donne beaucoup de ce qu'on appelle les punchlines. Les jeunes comprendront ce que je dis, des citations, des paroles fortes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde, particulièrement chez les jeunes, où on les conditionne à un plaisir, à l'excès. Et en fait, nos jeunes, ce qu'ils cherchent au plus profond de leur cœur, c'est des modèles de héros et de se conduire comme des héros. Et donc, une parole authentique d'un homme qui a vécu des expériences, ça les scotche. Et ça leur donne envie, d'une certaine manière, de vouloir, quelque part, encore une fois, trouver leur place, trouver leur mission. Et c'est ma mission, en fait.
Donc ça fait un certain temps que vous allez à la rencontre de la jeunesse. Comment vous la sentez évoluer par rapport à ce type de problématiques que sont l'addiction?
C'est vrai que nos jeunes, tout à l'heure je disais, hein, sont vraiment influencés, conditionnés. Depuis à peine 10 ans, je vois même un changement total par rapport aux écrans. Et donc, on est devant une jeunesse qui, pour moi, est une jeunesse sacrifiée. Alors, quand je dis ça, encore une fois, je pense que nous, adultes, on a une responsabilité. Je prends toujours cette citation de Don Bosco, le saint Don Bosco, qui disait... en fait, la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus délicat et de plus précieux dans notre société. Et j'ai peur qu'on ait loupé un rendez-vous avec notre jeunesse. Et moi, je veux une jeunesse sanctifiée, non pas une jeunesse, sacrifiée. C'est-à-dire que ce poids de mort, la drogue, les écrans, la pornographie, les jeux, les jeux, quand je parle des jeux, c'est tous ces enfermements, toutes ces pertes de sens, font que nos jeunes ont vraiment beaucoup de mal à se projeter. Encore une fois, cette espérance, c'est de pouvoir rentrer dans un dessin, dans un avenir, dans un futur où Dieu a mis déjà sa faveur. Ça veut dire qu'on peut déjà se projeter avec une assurance. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on entend, on est dans une période très anxiogène, chacun a peur de l'autre, d'une certaine manière, on empêche les jeunes justement de se réunir, de se retrouver. Tout ça fait que nos jeunes ont des difficultés, ont des craintes, ont des peurs qui sont légitimes, je dirais. Mais pouvoir leur proposer justement de se projeter dans cet avenir dont ils sont aujourd'hui les acteurs principaux. Moi, je travaille beaucoup dans les églises. C'est aujourd'hui, les jeunes, c'est pas l'avenir de l'église de demain, c'est l'avenir de l'église d'aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye de leur transmettre. Et j'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes, alors des retours douloureux, hein, parce qu'il y a des difficultés, mais aussi beaucoup de retours glorieux, parce que des jeunes sont rentrés pleinement dans leur destinée. Voilà en gros ce que je pouvais dire en tous les cas de mes interventions.
Ce message d'espoir que vous leur transmettez comme un troubadour d'espérance, comme le titre de votre ouvrage « De l'addiction à la mission » qui est paru aux éditions des Béatitudes. Oui. Vous serez très prochainement amené à témoigner dans notre diocèse. Nous communiquerons les dates dès qu'elles seront fixées. Laurent Guéjour, merci beaucoup.
Merci à tous vos éditeurs.
Et bon courage pour votre route alors.
Merci beaucoup.